Et merci à vous de nous être fidèles sur les ondes médias. Vous nous écoutez depuis Dakar sur le 93.8. Nous sommes ensemble pour Matin Famille. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de ces fameuses migraines. Alors que ce soit des migraines, des céphalées, des maux de tête, nous avons fait appel à notre professeur, professeur Lala Sek. Vous êtes spécialiste en neurologie à Dakar. Merci de répondre présente à notre invitation sur Média.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie déjà pour la confiance qui m'est faite. Bonjour à tous les auditeurs.
Qu'est-ce qui distingue une céphalée d'une migraine ou d'un simple mal de tête passager, souvent bénin donc, tous peuvent parfois être le signe de quelque chose de plus grave. Alors d'abord, professeur Lala Sek, qu'est-ce qu'une migraine, une céphalée ou un mal de tête ? Comment les différencier ?
En réalité, il n'y a pas à les différencier car il s'agit de plusieurs mots pour désigner un même phénomène. La migraine, elle est appelée plus communément mal de tête.
Oui.
Il s'agit du même phénomène en réalité, puisque le mot vient du latin céphalée, qui veut dire mal de tête. En fait, du grec képhalé, qui signifie la tête. Donc, il s'agit d'une douleur de la tête, souvent de l'extrémité céphalique, une douleur qui est ressentie au niveau de la tête. C'est un mal de tête. La migraine n'est pas le seul mal de tête que l'individu puisse ressentir. C'est
oui.
un des types de maux de tête que le sujet peut ressentir. Il y a plusieurs types de maux de tête, dont la migraine, justement, qui est une céphalée, un mal de tête particulier, tout comme il en existe d'autres.
Est-ce que les symptômes sont les mêmes lorsqu'on parle de céphalée, de migraine, de mal de tête? Est-ce qu'on a les mêmes symptômes ou est-ce que les symptômes sont différents?
Alors, le symptôme principal, c'est la douleur, puisqu'on parle de mal de tête. Donc, le symptôme principal, c'est la douleur qui est ressentie au niveau d'une partie quelconque de la tête. Donc,
oui.
c'est la constante, la douleur. Maintenant, le La douleur peut varier selon qu'on est devant une migraine ou devant un autre type de mal de tête. Il peut s'agir de migraine, il peut s'agir de céphalée, ce qu'on appelle la céphalée de tension, à côté de la migraine, donc ce sont les deux types de céphalée les plus fréquents. Mais il peut s'agir d'autres douleurs de l'extrémité céphalique, donc d'autres douleurs de la tête qui vont prendre la forme d'une névralgie, c'est-à-dire une douleur qui suit le trajet d'un nerf. Donc dans tous ces types de maux de tête ou de céphalée, eh bien la constante, c'est qu'il y a une douleur qui est ressentie par l'individu. Maintenant, cette douleur peut revêtir des caractéristiques variables, différentes, selon sa nature. Donc, le type de douleur, les patients vont comparer leur douleur à des phénomènes, à des éléments différents selon le ressenti qu'ils en ont. Une autre chose, c'est que la topographie, c'est-à-dire le siège, la partie de la tête qui fait mal, va varier selon le type de douleur, selon qu'on est devant une migraine ou un autre type de douleur. Donc, ces caractéristiques important à reconnaître parce que ça peut être plus ou moins évocateur, donc orienter le praticien vers un type de douleur ou un autre. Et également, le deuxième élément à côté de la douleur, ce sont les signes qui vont accompagner cette douleur. Ces signes vont être très variables. Eux également pourront être évocateurs, orienter le praticien vers tel ou tel type de douleur, vers une migraine ou vers un autre type de douleur.
Alors comment savoir si un mal de tête est plus ou moins grave?
Comment savoir si un mal de tête est... Généralement, il y a les deux étapes de l'examen lorsqu'on aborde un patient qui se plaint de céphalée. Il y a d'abord toujours l'interrogatoire qui recherche les signes de la douleur, les caractéristiques de la céphalée, les signes qui l'accompagnent, les signes qui accompagnent donc la douleur. Et donc, c'est une première étape pour avoir une orientation sur la gravité potentielle de la céphalée. C'est le type, donc, le mode, par exemple, d'installation de la douleur. Il faudra se méfier de toute douleur, toute céphalée qui survient de manière brutale. Donc, ça devrait faire inquiéter. Il faut se méfier de toutes les douleurs qui ont une survenue récente chez un sujet qui, habituellement, n'a pas de douleur, en tout cas, ou n'a pas jamais eu de douleur. Donc, ce sont des signes qui peuvent déjà mettre la puce à l'oreille, peuvent inquiéter le praticien. Mais ceci n'est qu'une étape de l'abord du patient, ce n'est qu'une étape de l'examen clinique. Si le praticien pense, selon les caractéristiques des plaintes du patient, qu'il s'agit d'une céphalée potentiellement grave, eh bien, il existe la deuxième étape. On va passer à la deuxième étape de l'examen clinique, qui est l'examen physique. C'est-à-dire, il va examiner le patient pour essayer de trouver d'autres signes, d'autres symptômes physiques, d'autres signes physiques qui vont pouvoir orienter vers une pathologie sous-jacente dont la céphalée pourrait être une manifestation. Donc, il ne suffit pas de se limiter au signe de l'interrogatoire, c'est-à-dire la plainte du patient. Il faut aller chercher après cette plainte, donc, enfin, une céphalée potentiellement grave, rechercher les stigmates physiques d'une pathologie sous-jacente pouvant être potentiellement grave et dont la céphalée, mal de tête, n'est qu'une expression.
Alors, quels
sont... Globalement, les signes majeurs, c'est l'arrivée brutale d'une céphalée et le fait que ce soit de survenue récente chez un patient dont le passé est absolument indemne de toute pathologie douloureuse, notamment au niveau de la tête.
Alors, ces personnes à risque, justement, professeur Lalasek.
Globalement, ça va être difficile de déterminer un groupe à risque de manière absolue. Ça peut être plus précisé à partir du moment où on distingue les deux types de maux de tête, c'est-à-dire les maux de tête qui n'ont pas, qu'on dit bénins, entre guillemets, mais je dis bien entre guillemets, qui ne sont pas symptomatiques, c'est-à-dire qui ne sont pas l'expression d'une pathologie potentiellement grave, et puis les céphalées qui sont symptomatiques ou secondaires, donc qui sont l'expression d'une pathologie sous-jacente potentiellement grave. Alors, si on prend le deuxième groupe, c'est-à-dire les céphalées symptomatiques d'une affection sous-jacente, grave ou pas, tout le monde est à risque. Il n'y a pas de groupe prédéfini, tout dépend du terrain, donc la pathologie antérieure du patient. Si on prend les céphalées non symptomatiques, on les appelle les céphalées primaires, c'est-à-dire ce sont des maux de tête dont la migraine, dont la céphalée de tension sont les plus fréquentes. Donc ce sont des céphalées dont souffre le patient, pour lesquelles je disais tout à l'heure bénin entre guillemets, parce qu'ils ne vont pas aggraver, qu'ils ne vont pas en fait mettre en jeu le pronostic vital, qu'ils ne vont pas mettre en jeu la vie du patient, qu'ils ne traduisent pas une pathologie, une maladie sous-jacente. Généralement, il y a un terrain familial, souvent, il y a un facteur génétique, très souvent, qui fait qu'on a eu dans sa famille un parent, un des ascendants, du premier degré ou autre, qui a fait de la migraine, eh bien, on est à risque de faire une migraine, et ce, d'autant plus qu'on est du genre féminin. Alors, je disais bénin, on les appelle primaires ou bénins, mais en réalité, même si ces céphalées ne mettent pas en danger la vie du sujet, eh bien, leur retentissement principal, c'est de mettre d'altérer la qualité de vie de l'individu, et en ce sens, eh bien, le terme bénin est moins.
D'accord, parfait. Alors, les risques, on y arrive. Quels peuvent en être les risques à long terme, professeur Lalasek?
Alors, le risque à long terme, là, on revient également à cette dichotomie que je venais de faire par rapport à s'il s'agit d'une céphalée primaire, c'est-à-dire n'engageant pas le pronostic vital, ou d'une céphalée sous-jacente, d'une céphalée expression d'une affection sous-jacente. Dans le cadre des céphalées primaires, il n'y a pas d'altération de pronostic vital, c'est-à-dire, encore une fois, ça ne met pas en jeu, ça ne met pas à risque la vie de l'individu. Cependant, il existe effectivement une altération de la qualité de vie, donc les retombées vont être psychologiques, déjà,
D'accord.
à l'échelle individuelle. Mais vous avez tous les autres paramètres qui vont définir la qualité de vie qui vont être altérés. Donc, il va y avoir un retentissement sur plusieurs plans, sur le plan social, puisque l'individu ne peut plus mener correctement ses interactions avec la société dans laquelle il vit, les individus de la société dans laquelle il vit. Vous avez le retentissement familial, déjà. Et puis, sur le plan professionnel, puisque vous avez, par exemple, l'absentéisme. Et de plus en plus, on parle de présentéisme. Donc, sur tous les plans de la vie quotidienne, eh bien, il va y avoir un retentissement, même s'il ne s'agit pas de céphalées graves sur le plan vital. Alors, pour les céphalées secondaires, donc je disais symptomatiques d'une affection sous-jacente, eh bien, le risque à long terme, il est variable. Il va dépendre de l'expression de la maladie dont la céphalée est l'expression. Donc, le pronostic va être variable.
Parfait. Alors, comment se passe le diagnostic, professeur Lalasek?
Le diagnostic, il est essentiellement clinique. Le diagnostic, surtout, il s'agit de dire ce patient est céphalalgique. Donc, il a une céphalée et la céphalée est de tel type. Donc, s'il s'agit de poser le diagnostic qu'il s'agit bien d'une céphalée pour ce qui est de la souffrance patient, eh bien, c'est la clinique. Et d'abord, l'interrogatoire. C'est essentiellement d'ailleurs l'interrogatoire. Il s'agira d'interroger le patient pour recueillir les informations disant, certifiant, en fait confirmant qu'il s'agit, qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'un mal de tête qui va intéresser la tête, donc d'une céphalie.
D'accord.
Maintenant, après avoir posé le diagnostic positif, l'étape suivante, c'est de dire est-ce qu'il s'agit d'une céphalie primaire, donc qui ne cache pas maladie grave, ou d'une céphalie secondaire qui cache une autre maladie grave ou pas d'ailleurs.
Très bien.
Donc c'est la deuxième étape, le diagnostic, et on parle de diagnostic étiologique. Et cette deuxième phase, par contre, va faire appel à des moyens un peu moins simples et sophistiqués, puisqu'il faudra faire une imagerie, par exemple un scanner ou une IRM, bref, une imagerie, explorer la tête pour s'assurer qu'il n'y a pas une lésion contenue dans la boîte crânienne, donc dans la tête, qui est responsable de ce mal de tête. S'il ne s'agit pas d'une lésion contenue dans la tête, eh bien, ou dans le cerveau, c'est le terme médical en réalité, mais donc, en dehors d'une lésion contenue dans le cerveau, il peut s'agir d'une cause autre qu'on pourra rechercher par d'autres procédés diagnostiques. Ça peut être un bilan biologique, ça peut être autre chose, selon le contexte, encore une fois, selon la maladie sous-jacente dont la migraine est une expression, la migraine ou une autre céphalée d'ailleurs, est l'expression.
D'accord.
Donc, la première étape, c'est de dire c'est bien une céphalée, et la deuxième étape, c'est de dire qu'est-ce qui se cache derrière cette céphalée pour éliminer une maladie potentiellement grave.
Et justement, on y arrive. Que faire en cas de crise?
En cas de crise, je suppose que vous faites un peu allusion à la migraine, mais ça peut être la migraine ou une autre céphalée.
Tout à fait.
Eh bien, en cas de crise, c'est d'abord soulager la douleur. C'est valable pour une céphalée, c'est valable pour toute douleur d'ailleurs. Il faut d'abord soulager la douleur. Il faut, s'il s'agit de la migraine par exemple, donner les médicaments indiqués. Il y a des médicaments qui sont connus communément, et surtout éviter l'automédication.
Oui.
Donc je pense que cela fait qu'au au cours de la première crise, l'idéal c'est d'essayer d'entrer en contact avec un praticien, d'essayer de consulter un médecin. C'est une des meilleures pratiques, et à tout prix éviter une automédication, parce que une céphalée bénie peut revêtir le masque d'une céphalée potentiellement grave et vice versa. Vu que dans les situations inaugurales, c'est-à-dire lorsque cela arrive pour la première fois, on ne peut pas d'emblée savoir de quoi relève cette céphalée, l'idéal c'est de se faire diagnostiquer par un médecin. Et une fois la céphalée rangée dans un cadre bien déterminé, eh bien, normalement, on a une prescription. Eh bien, respecter la prescription autant que possible. Soulager la douleur, c'est soulager les signes qui accompagnent la douleur. Parfois, au-delà de la prise médicamenteuse, il peut exister des mesures simples. Par exemple, pour la migraine, se reposer, faire une compression au niveau de la tête, diminuer l'exposition lumineuse, diminuer l'exposition sonore, etc. Voilà, c'est un exemple que je donne pour la migraine, mais en fonction du type de mal de tête, un certain nombre de mesures est préconisé à l'issue d'une entrevue avec un praticien. Et ce qui est sûr, c'est que une des pratiques les moins recommandées, c'est de rester dans l'automédication, parce que cela banalise la céphalée. Or, on ne sait jamais ce qui se cache derrière.
Alors, qu'en est-il justement en termes de traitement, professeur Lalasek?
Les traitements sont divers et variés. Ils sont généralement à base de traitements antalgiques. Donc, ce sont ces médicaments qui coupent la douleur, dont la propriété essentielle est de couper la douleur.
Oui.
Là également, c'est très variable puisque c'est selon le type de mal de tête. Si certains types vont partager certaines classes thérapeutiques, donc certains médicaments utilisés, certains moyens médicamenteux utilisés, d'autres ont leur traitement propre.
D'accord.
Globalement, il existe des médicaments pour la crise. Et puis, lorsque la crise est mal jugulée, est difficile à juguler, avec des patients qui ont des crises trop fréquentes ou des crises prolongées, des crises globalement invalidantes, eh bien, on procède à côté du traitement qui doit être pris au moment de la crise à un traitement qu'on appelle un traitement de fond.
D'accord.
Nous parlons de la migraine, vous avez le traitement de crise, pareil, et le traitement de fond pour les patients pour lesquels le traitement de crise ne suffit plus. Bon, cette émission est malheureusement courte, il va être difficile d'entrer dans certains détails. Mais communément, ce qui est retenu dans la migraine, deux classes thérapeutiques majeures, ce sont les triptans les gens anti-inflammatoires, et vous avez certains qui font recours aux dérivés de l'ergodécec, aux dérivés ergoté. Ce sont les médicaments majeurs de la crise, mais à côté, il existe une panoplie. Chez certains patients chez qui la crise ne passe pas, ou en tout cas a tendance à récidiver trop fréquemment, à être trop longue, à être trop invalidante en termes d'intensité douloureuse, eh bien, il va falloir leur proposer un traitement de fond à côté de ce traitement de crise.
Parfait. Alors, que faut-il...
Voilà schématiquement ce qu'on peut dire.
Très bien, parfait. Alors, docteur Lalasek, je rappelle que vous êtes spécialiste en neurologie à Dakar. Pour finir, que faut-il éviter tous les auditeurs qui nous écoutent se posent forcément cette question. Que faut-il éviter afin, en tout cas, d'essayer de ralentir ces crises récurrentes?
Alors, ce qu'il faut éviter, si nous sommes dans la migraine... D'abord, comme je le disais tantôt, je vais le répéter, c'est éviter l'automédication, éviter de s'autotraiter. Le bouche à oreille qui fait que parce qu'un médicament a soigné un tel, on a envie de le prendre pour faire face à sa crise. Mais chaque médicament, chaque type de céphalée a son traitement spécifique. Donc, il faut se faire diagnostiquer, il faut éviter l'automédication. Alors, pour ce qui est de la migraine, puisqu'encore une fois, c'est la plus fréquente, fréquemment diagnostiquée à côté de la céphalée de tension, on peut souvent penser à dire, parce qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs déclenchants. Donc, les facteurs auxquels, lorsqu'il est soumis, le patient a tendance, ou la patiente, parce que souvent c'est une femme d'ailleurs, a tendance à développer la céphalée, à développer sa migraine, souvent parce qu'il est soumis à une condition qu'on appelle facteur déclenchant, circonstance déclenchante. Eh bien, déjà, au cours de l'entrevue, le patient doit être amené à identifier ces facteurs déclenchants. Mmh. Donc, en plus de suivre le traitement médicamenteux, eh bien, il peut être intéressant à ce moment-là d'identifier les facteurs déclenchants pour pouvoir éventuellement s'y soustraire, en tout cas les éviter, éviter d'y être exposé pour éviter au maximum de déclencher ces crises, pour diminuer au moins la fréquence des crises. Même si de nouvelles tendances vont plutôt dans le sens contraire pour dire qu'il faut mieux plutôt confronter le patient à ces circonstances-là pour l'habituer. Alors, les réactions étant la réaction de la crise n'étant pas, ne pouvant pas toujours être maîtrisée face à l'exposition, chez un patient donné, l'idéal est d'éviter les facteurs déclenchants. Maintenant, selon l'évolution, on peut être amené dans certaines conditions. Si l'éviction du facteur n'a pas permis de juguler l'évolution plus aisément parce que trop fréquente, eh bien, à ce moment-là, seulement essayer de voir que va donner la confrontation avec le facteur déclenchant. Mais classiquement, à côté du traitement médicamenteux, c'est l'éviction, c'est-à-dire éviter d'abord les identifier et ensuite éviter de s'exposer aux facteurs, au maximum, aux facteurs déclenchants, en sachant que certains seront évitables et d'autres pas forcément.
Professeur Lalasek, je rappelle que vous êtes spécialiste en neurologie à Dakar. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur Médien.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est un entretien réécoutable, bien sûr, sur notre site médien.com.